Tout d'abord, je remercie la section du Calvados de m'avoir invité à faire cette présentation, Madame Delperrier, et puis son équipe très active, Madame Schmalsertz et Monsieur Mabir, qui ont permis que nous fassions un programme intéressant pour ce soir. Quelques mots pour me présenter. Donc, effectivement, je suis psychologue au Centre Esquirol et puis chercheur à mi-temps. Au Centre Esquirol, mes fonctions de psychologue s'organisent autour de la prise en charge de personnes jeunes, de 16 à 24 ans, qui présentent un premier épisode psychopathologique, quel qu'il soit, et plus spécifiquement des personnes qui présentent ce qu'on appelle un premier épisode psychotique, dont on parlera tout à l'heure, un trouble qui peut, dans un certain nombre de cas, découler sur la maladie qu'on appelle schizophrénie, et dont je vais parler ce soir. Cette équipe, donc, pour les jeunes, elle s'appelle équipe mobile de soins intensifs. J'aurai l'occasion de la présenter en détail après, puisque c'est une équipe que vous pouvez solliciter si vous avez des soucis vous-même, ou si bien sûr des personnes de votre entourage en ont. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite mon intervention par vous parler d'une enquête qui a été faite en 2008. Cette enquête, elle a été faite aux États-Unis. Elle a été réalisée par la National Alliance on Mental Illness. Donc, c'est une association, c'est une fondation, pardon, à but non lucratif, qui rassemble des patients souffrant de troubles psychiques, des aidants, donc de la famille, des amis, et puis toute personne de bonne volonté qui veut participer donc à cette fondation. Cette fondation, elle a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de troubles psychiques graves et puis de diffuser auprès du grand public des informations qui soient justes sur ces maladies psychiques graves. Donc, en 2008, ils ont effectué une enquête et ils se sont interrogés sur la perception que le grand public a de la schizophrénie. Alors, les résultats de l'étude montrent tout d'abord que 85% des personnes interrogées reconnaissent la schizophrénie comme une affection médicale. C'est une bonne chose, on le développera par la suite. Deuxième résultat de cette étude, seulement, 27% des personnes interrogées seraient embarrassées si un membre de leur famille était affecté. Par contre, les résultats montrent que seulement 43% des personnes diraient à leurs amis si eux-mêmes étaient affectés par la schizophrénie. D'où ma question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est toujours aussi difficile de pouvoir avouer à autrui que l'on souffre de cette maladie? Une des raisons est que la schizophrénie, cette pathologie, est stigmatisée. Alors, je n'aime pas trop passer par des définitions, mais c'est important parfois de les rappeler. Donc, la stigmatisation, c'est une marque de honte, de disgrâce, de désapprobation, conduisant un individu à être évité et rejeté par les autres. La stigmatisation accompagne toutes les formes de maladies mentales, mais elle est en général d'autant plus marquée que le comportement de l'individu diffère davantage de ce qui est normal, la norme. Les chercheurs anglo-saxons, notamment, se sont beaucoup intéressés à la question de la stigmatisation pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves. Et il y a un large consensus pour reconnaître aujourd'hui que cette stigmatisation reste le principal obstacle à une vie meilleure pour ces patients. Et d'où vient la stigmatisation? La stigmatisation, elle vient tout simplement des opinions. Les opinions que l'on se forge sur la base de films, d'émissions de télévision et de reportages et qui modèlent un petit peu la façon dont on a de voir les choses. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos concernant les médias. Je ne sais pas si c'est très lisible du fond de la salle, mais le contenu, je vais vous le résumer. Ce sont deux dépêches de deux grands quotidiens nationaux qui sont parus le même jour, quasiment à la même heure d'ailleurs, et qui faisaient suite à l'agression, il y a quelques semaines à Paris, d'une psychiatre dans son cabinet par un de ses patients. Une agression qui, malheureusement, a entraîné la mort de cette personne. Donc, voilà, deux dépêches qui relatent les faits, et puis des informations supplémentaires sont données dans ces deux dépêches. Donc, même si, au moment où les deux dépêches sont parues, c'est-à-dire 3 jours après que l'agression ait été commise, à ce moment-là, donc, le diagnostic de la personne qui a commis cette agression n'était pas connu du grand public et des médias. Malgré tout, dans leur dépêche, les journalistes font référence à une autre affaire qui a défrayé la chronique en 2008 et qui concerne l'assassinat de deux soignants de l'hôpital de Pau par une personne souffrant de schizophrénie. Alors qu'est-ce qu'on voit en regardant ça ? On voit qu'ici, on a deux articles qui parlent d'une personne qui a commis un geste hétéro-agressif, que cette personne, on ne connaît pas son diagnostic. Et malgré tout, dans un article où on parle des faits commis par cette personne, il y a un rapprochement qui est effectué avec la question de la schizophrénie. Et donc, implicitement, ces deux articles, en rapprochant les deux affaires, créent un lien inconscient peut-être, entre le fait qu'une personne souffre de schizophrénie et que celle-ci peut être dangereuse. C'est un exemple éloquent, je trouve, pour illustrer le fait que les médias peuvent véhiculer des informations de manière plus ou moins claire et faire des liens et ensuite colporter des préjugés concernant la santé mentale. Le préjugé ici étant que la schizophrénie serait liée à de la dangerosité, ou bien que toutes les personnes souffrant de schizophrénie sont dangereuses. C'est un des préjugés que je vais développer dans mon propos par la suite. Je vais en prendre plusieurs que je vais vous présenter maintenant. Premier préjugé dont on va essayer de tester la validité, et le fait que la schizophrénie serait un dédoublement de personnalité ou une personnalité multiple, et puis que la schizophrénie est un défaut de caractère ou bien une faiblesse morale. On discutera également du lien entre dangerosité et schizophrénie, ce que certains médias en 2008 ont qualifié de fou dangereux. Nous verrons si la schizophrénie, comme c'est pensé encore beaucoup actuellement, est la conséquence de mauvaises compétences parentales. Et puis, on se posera la question évidente de savoir si les maladies mentales peuvent être traitées, puisque un certain nombre de personnes pensent encore aujourd'hui que ceci n'est pas possible. Alors, concernant notre premier mythe, donc je parle de mythologie des schizophrénies, ce mythe qui est que la schizophrénie serait un dédoublement de personnalité ou une personnalité multiple et puis un défaut de caractère ou une faiblesse morale. Alors, pour être clair tout de suite, non, la schizophrénie n'est pas un dédoublement de personnalité. J'espère que quand vous sortirez de cette salle, au moins ceci sera gravé dans votre esprit pour ceux qui ne le savaient pas. La schizophrénie, c'est une pathologie psychique grave qui se caractérise par un certain nombre de symptômes qui ne sont pas là tous en même temps chez la même personne, donc qui peuvent varier d'un individu à un autre, et qui peuvent varier également dans le temps, en termes de présence ou d'absence, ainsi qu'en termes de sévérité. Les symptômes les plus caractéristiques de la schizophrénie sont ceux qui sont notés en haut, les symptômes positifs à votre gauche et les symptômes négatifs à votre droite. Pourquoi on utilise cette dénomination symptômes positifs et symptômes négatifs ? Parce que on travaille et on réfléchit en quelque chose en plus et quelque chose en moins. Les personnes souffrant de schizophrénie et qui présentent des symptômes positifs, Ces symptômes positifs représentent donc avoir quelque chose en plus de ce qu'on appelle la norme. Je prends un exemple. Vous comme moi voyons très très bien. Vous me voyez comme moi, je vous vois dans la salle. Avoir des hallucinations visuelles, c'est le fait de voir plus. Donc c'est positif. Vous êtes tous en train d'écouter ce que je dis, mais peut-être aussi en train de réfléchir, de penser, avoir des pensées. Réfléchir, c'est normal. Par contre, avoir des idées délirantes, ce qu'on appelle des idées délirantes, donc, c'est penser plus que la normale. Donc, ceci caractérise ce qu'on appelle les symptômes positifs, qui représentent des choses en plus par rapport à la norme. Et à l'inverse, les symptômes négatifs représentent ce que la personne peut avoir en moins par rapport à la norme. Le premier symptôme que j'ai noté, les affects émoussés, les affects, donc c'est les sentiments, les émotions. Les personnes souffrant de schizophrénie, en tout cas si elles présentent des affects émoussés, donc ont beaucoup plus de difficultés que vous et moi à ressentir les émotions, à exprimer ces émotions. Le retrait social, le dernier symptôme qui est cité, vous êtes tous plus ou moins sociables dans votre environnement. Une personne souffrant de schizophrénie pourra avoir plus de difficultés que la norme à aller vers autrui, à avoir du contact avec sa famille, avec ses amis, avec le milieu scolaire, le milieu professionnel, etc. Donc des symptômes qui représentent quelque chose de plus par rapport à la norme et des symptômes qui représentent quelque chose de moins par rapport à la norme. Troisième sous-type de symptômes, en bas à gauche, les déficits cognitifs. On entend par déficit cognitif des déficits attentionnels, de mémoire et des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, par exemple, c'est la capacité à planifier des activités que l'on veut avoir dans la journée, à organiser son emploi du temps. Les déficits cognitifs, on les prend pas souvent en compte, mais il faut savoir qu'environ 70% des personnes souffrant de schizophrénie présentent des troubles cognitifs. À l'extrême droite, des symptômes thymiques qui peuvent apparaître également chez ces patients. Donc la thymie, c'est ce qu'on appelle aussi l'humeur, donc avec des symptômes de dépression, du désespoir, des idées suicidaires, on le verra plus tard. Et puis enfin, un abus de substances concomitant et qu'on présente un ou plusieurs de ces symptômes. Tout ceci provoque le centre de la figure, donc des dysfonctionnements socio-professionnels. J'ai du mal à aller à l'école, au lycée, à la fac. J'ai du mal à maintenir mon activité au travail. Des difficultés interpersonnelles. On peut parler au sein de la famille, mais aussi avec les amis, avec les inconnus. Et puis des difficultés quant à la capacité qu'on a à prendre soin de soi. Donc la schizophrénie, les schizophrénies, en fonction du sous-type de symptômes que les personnes présentent, c'est ça, et non pas un dédoublement de personnalité ou une personnalité multiple. Quelques chiffres, la schizophrénie, ça représente 1% de la population générale. Si on prend une salle constituée de 100 personnes, ça veut dire qu'une personne dans la salle est susceptible de souffrir de schizophrénie. C'est un chiffre que je trouve intéressant parce qu'il est marquant. Deuxième chiffre marquant, si on compare aujourd'hui, enfin c'était des résultats de 2006, mais on est à peu près au même résultat actuellement, si on compare le nombre de personnes qui souffrent de schizophrénie par rapport aux personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer, c'est le double pour les pathologies qui sont citées par la suite. Donc on va en décroissant. Donc c'est une pathologie qui, en termes de prévalence, est extrêmement importante. Tant et si bien que, évidemment, elle représente un coût de santé mentale extrêmement important, 3% dans le monde. Quelques données également pour savoir comment on peut développer une schizophrénie. Il faut savoir que la probabilité est plus importante quand des membres de la famille sont touchés. Ce qu'on appelle les apparentés de premier degré, ce sont un papa, une maman, ou bien un frère, une sœur. Si vous avez un papa, une maman ou un frère, une sœur qui est atteint de schizophrénie, votre risque augmente à 10%. Ceci ne voulant pas dire que la schizophrénie est une pathologie uniquement génétique. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Elle touche en général, en tout cas elle débute chez les jeunes adultes. On considère que c'est de 15 à 25 ans pour les hommes et puis de 17 à 27 pour les femmes. Il y a autant de femmes que d'hommes qui sont atteints par la pathologie. Et comme je vous disais tout à l'heure, les hommes, ça commence plutôt chez eux. Alors, comment on explique l'apparition de la schizophrénie ? Aujourd'hui, on n'a pas réellement d'explication. On ne peut pas dire c'est tel gène, on ne peut pas dire c'est tel facteur environnemental, on ne peut pas dire c'est telle zone cérébrale qui est dysfonctionnelle et qui implique l'apparition de la schizophrénie. Donc, ce qu'on utilise pour expliquer la schizophrénie, le modèle le plus accepté dans la littérature scientifique qui s'appelle le modèle vulnérabilité-stress. Ce modèle considère qu'il existe chez les personnes qui développeront une schizophrénie une vulnérabilité biopsychologique qui est existante à la naissance. C'est-à-dire qu'il pourrait apparaître des dysfonctionnements, des difficultés lors de la maturation du cerveau et que ces dysfonctionnements, cette difficulté de maturation se cristallise en quelque sorte dans le cerveau de la personne et puis cette personne, à la naissance et puis au cours de sa vie, reste porteuse de cette vulnérabilité. Cependant, vous pouvez posséder cette vulnérabilité sans jamais développer de schizophrénie. Pour développer une schizophrénie, le modèle considère qu'il faut l'existence de ce qu'on appelle des stresseurs socio-environnementaux qui viennent interagir avec la vulnérabilité pour lui permettre de s'exprimer. Je prends souvent l'exemple un petit peu de la photo et du révélateur photo. Au départ, vous avez un négatif qui représenterait la vulnérabilité biopsychologique. Ce négatif, si vous le regardez, il ne démontre rien. Alors que si vous passez le négatif dans le révélateur photo, alors l'image apparaît. Les stresseurs, en fait, jouent le rôle de ce révélateur photo. Les stresseurs socio-environnementaux sont de plusieurs types. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on entend comme stresseur socio-environnemental aussi bien des bonnes choses que des mauvaises choses. Évidemment, avoir perdu une personne qui nous était chère, ça crée du stress. Être surchargé de travail au moment des examens, ça représente un stress aussi. Subir ou bien avoir la chance de recevoir une demande en mariage, c'est un stress aussi. Un stress très positif, mais c'est un stress aussi. Me faire lâcher par ma petite copine, c'est un stress également. Tous ces stresseurs-là, donc, peuvent servir de révélateur à cette vulnérabilité biopsychologique. Et donc, on considère que les symptômes de la schizophrénie n'apparaîtront que s'il y a interaction entre cette vulnérabilité et les stresseurs socio-environnementaux. Alors, la schizophrénie, comme j'ai pu le montrer auparavant, c'est une pathologie grave de par sa symptomatologie. Mais c'est aussi une pathologie grave à cause des comorbidités qui l'accompagnent, donc des troubles qui lui sont associés. On considère que les personnes souffrant de schizophrénie ont une espérance de vie diminuée de 10 à 25 ans par rapport à une personne ne souffrant pas de la maladie, ce qui est beaucoup. Les principales causes sont le suicide, mais également les maladies cardiovasculaires. En ce qui les concerne, les facteurs de risque chez les personnes souffrant de schizophrénie sont très importants. Le tabagisme, je vais revenir dessus, la pauvreté, on le verra tout à l'heure, les personnes souffrant de schizophrénie ont souvent des problèmes d'argent. Quand on a des problèmes d'argent, on a du mal à se nourrir. Et puis, personnes qui souffrent de schizophrénie ont moins recours aux soins médicaux pour plusieurs raisons qu'on évoquera. pour vous donner une idée un petit peu de la prévalence de ces comorbidités médicales. Si on regarde la population générale, 23% de la population générale, en gros, fume, alors que 85% des personnes souffrant de schizophrénie fument également. Pour les maladies cardiovasculaires, 22% par rapport à 50. Le diabète, 8% par rapport à 15%. Le sida, 0,3%, de 3 à 6%, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le voir, la prévalence des maladies somatiques chez les personnes souffrant de schizophrénie est très, très importante. Prévalence de troubles somatiques, mais prévalence également d'autres troubles psychiques, notamment des troubles anxieux. Si on regarde la barre qui est tout à gauche, donc c'est tous les troubles anxieux, pour ainsi dire, 50% des patients présentent des troubles anxieux qui se déclinent en ESPT, donc état de stress post-traumatique, troubles panique, anxiété sociale et troubles obsessionnels compulsifs. Donc c'est énorme. Concernant la consommation de toxiques, la consommation d'alcool dépasse les 30%, ce qui est beaucoup aussi. Et puis, on voit que l'abus de drogue représente 25%. Mais bon, concernant l'abus de drogue, je pense qu'il y a un souci vis-à-vis de ces données. Elles sont relativement anciennes, puisqu'elles datent de 1999 et de 2001. Et elles font preuve d'une méconnaissance importante, je pense, de ce qui est la consommation de cannabis chez les jeunes. Alors, j'en dis deux mots, ça tombe bien. On a des classes de lycéens parmi nous, donc je pense que ça les intéressera. Selon la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies, les derniers chiffres qui datent donc de 2011, les jeunes de 17 ans, donc pris dans leur ensemble, sur les 25 dernières années, donc la MILT évalue depuis 25 ans les consommations de toxiques et donc il constate que la consommation de cannabis est en augmentation constante depuis ces années. Il n'y a pas de plateau, on ne s'arrête pas, ça continue d'augmenter. Les chiffres sont les suivants, 55% des jeunes hommes et 46% des jeunes filles ont déjà fait l'expérience au moins une fois du cannabis à l'âge de 17 ans. 15 à 25% des adolescents le consomment de façon répétée dans leur étude, c'est plus de 5 fois par jour. Donc c'est des chiffres énormes. Ce qui me fait dire qu'on est certes face à une question de société, mais aussi face à une question de santé mentale en elle-même, puisque on va le voir pour les études sur la schizophrénie, entre 1996 et 2008, donc, quand on prend toutes les études scientifiques qui sont parues pendant cette période, eh bien, on montre que 20% des personnes qui souffrent de schizophrénie consomment du cannabis et 31% ont une dépendance, sachant que l'un et l'autre sont exclusifs. C'est-à-dire qu'il faut faire 31 plus 20 pour avoir le chiffre exact, c'est-à-dire 50% des personnes souffrant de schizophrénie présentent une consommation de cannabis. Sachant que celle-ci est plus élevée chez les hommes et chez les jeunes, et c'est là que je disais qu'on est face à un problème de santé mentale également, la consommation de cannabis est reconnue comme augmentant de 40% le risque de schizophrénie. La pathologie qu'on appelle la schizophrénie, donc c'est une pathologie grave au niveau de la symptomatologie, c'est une pathologie grave au niveau des comorbidités, mais c'est une pathologie tragiquement grave au niveau du fonctionnement des personnes elles-mêmes. Les réalités du quotidien de ces patients sont les suivantes. Au niveau du travail, 50 à 85% des personnes souffrant de schizophrénie ne travaillent pas. 30% travaillent en ESAT ou en établissement adapté et seulement 20% en milieu ordinaire. Et pourtant, Dieu sait que ces personnes, elles veulent travailler. Elles me le disent tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas un certain nombre de fois en consultation. Mais hélas, l'intensité de leur symptomatologie, et notamment les troubles cognitifs dont je parlais tout à l'heure, les empêchent de tenir une activité salariée normale. Si vous avez des difficultés à mémoriser ce que votre chef vous demande de faire, vous allez vous faire engueuler une fois, la deuxième fois, vous vous ferez mettre à la porte. Donc, vous ne tiendrez pas votre emploi. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer dans un environnement de travail où il y a du bruit, vous ne pourrez pas faire votre travail correctement. Concernant les revenus, donc je disais que c'était des personnes qui ont des difficultés à se nourrir. Une des raisons supplémentaires, enfin une des raisons explicatives plutôt, c'est les faibles revenus de ces patients, puisque plus de 75% d'entre eux vivent tout ou en partie grâce aux aides sociales, allocations adultes handicapés, pensions d'invalidité, revenus de solidarité active, etc. Et 40% d'entre eux, je dirais au moins, sont sous mesure de protection, que sont les curatelles ou les tutelles. C'est une maladie qui est associée à une solitude importante. Seulement 35% des personnes souffrant de schizophrénie sont en couple ou vivent en statut marital. Parmi celles-ci, on trouve uniquement 36% des personnes qui vivent seules, 40% vivent encore chez leurs parents, quel que soit l'âge de la personne, et 60% n'ont pas de logement personnel. Et concernant la qualité de vie de ces patients, la qualité de vie est estimée comme divisée par deux. Donc si vous êtes heureux de la vie que vous menez aujourd'hui, imaginez que vous en retranchiez 50% et voyez ce que ça peut donner. Et enfin, on en reparlera également après, mais plus de 65% des personnes souffrant de schizophrénie connaissent des épisodes de dépression. Donc c'est une pathologie qui se caractérise par des symptômes, par des troubles médicaux comorbides et aussi par une diminution des capacités de fonctionnement drastique. Deuxième mythe que je voulais essayer de tester avec vous, c'est la question de la dangerosité de ces patients et de savoir si toute personne qui souffre de schizophrénie, est une personne dangereuse. Excusez-moi, il me manque une diapo. Non, c'est celle-ci. Alors, quels sont les chiffres de la littérature ? Je pense qu'il ne faut pas qu'on se positionne dans une, qu'on soit dans une position angélique vis-à-vis de la pathologie psychique, mais qu'on prenne les chiffres en eux-mêmes. Les chiffres, ils démontrent que 5 patients souffrant de schizophrénie pour un sujet sain commettent des actes violents. C'est un chiffre qui peut paraître élevé, hein, à première vue comme ça. Mais est-ce que pour cela, il veut dire que toutes les personnes qui souffrent de schizophrénie sont dangereuses ? Non, ça veut juste dire que 5 pour 1. Si on regarde ces données de manière un peu plus détaillée, on peut voir que, par contre, 2 personnes saines, sans troubles psychiques, pour un patient, commettent des actes violents quand il y a consommation de toxiques. Donc, contrairement à une augmentation du nombre d'actes violents sans prise de toxiques chez les personnes souffrant de schizophrénie, on voit qu'il y a une diminution par rapport à la population, encore une fois normale, de ces actes quand il y a consommation de toxiques. Une deuxième donnée intéressante montre que sur une année, je ne dirais pas 100% parce que ça serait faux, mais 99,97% des patients ne commettront pas de violence. Donc si toutes les personnes souffrant de schizophrénie étaient dangereuses, ça apparaîtrait au moins dans ce chiffre. Et enfin, une dernière information, alors que le nombre d'homicides augmente de 1957 à 1995, là on est en Grande-Bretagne, l'étude démontre que ceux commis par des personnes souffrant de schizophrénie n'augmentent pas eux-mêmes. Donc clairement, la question de savoir si toutes les personnes souffrant de schizophrénie sont dangereuses. Non, toutes les personnes souffrant de schizophrénie ne sont pas dangereuses. Mais quand on parle de dangerosité, ce qu'on a souvent tendance à éluder, c'est le fait que la dangerosité, elle peut être dirigée vers autrui, une dangerosité hétéro-agressive, mais qu'il peut y avoir aussi une dangerosité contre soi, ou bien subir de la dangerosité. En ce qui concerne le fait de subir des actes violents, les personnes souffrant de schizophrénie sont 14 fois plus à risque d'être victimes d'un crime que d'en commettre un. Dans la population des personnes souffrant de schizophrénie, de nombreuses personnes se font du mal, 10% de suicides, ce qui représente une augmentation de 40 à 50 fois les chiffres qu'on a dans la population normale. Et puis, si une dernière information doit être donnée ici, ce qu'il faut savoir, c'est que 49% des tentatives de suicide, 54% des automutilations, 39% des homicides et 38% des agressions commises par des personnes souffrant de troubles psychiques, qu'on appelle schizophrénie, sont commises lors de leur premier épisode psychotique. Le premier épisode psychotique étant une phase avant le diagnostic de schizophrénie. C'est une phase pendant laquelle la personne n'a pas été reconnue comme souffrant de troubles psychiques, quels qu'ils soient. Donc elle ne reçoit pas de traitement, elle n'est pas suivie pour ce qui pose problème. Donc finalement, la majorité, comme on le voit, la majorité des actes violents sont commis quand les patients n'ont pas de traitement et qu'ils ne sont pas bien pris en charge. Troisième question que je voulais aborder, c'est celle de savoir si la schizophrénie serait causée par de mauvais parents, pour parler simple. Alors cette idée, elle est ancrée depuis un certain nombre d'années. Et je dirais que là-dessus, finalement, les psychiatres, les psychologues, les chercheurs ne nous ont pas aidés pendant un certain nombre d'années, puisque c'est d'eux que sont venues ces idées que les maladies psychiques en général pourraient être induites par des mauvais comportements de la part des parents. Les premières personnes à travailler sur la question et puis à théoriser sur la question, parce que c'est surtout des théories plutôt que des travaux expérimentaux, ce sont Léo Kanner et Bruno Bettelheim qui ont parlé, qui ont utilisé un terme sympa, je trouve, parce qu'il est joli, bien trouvé, les mères réfrigérateurs. Il est bien trouvé, mais passez-moi l'expression, mais putain, qu'est-ce qu'il est lourd de sens. Des mères réfrigérateurs qu'ils qualifient, eux, de mères froides, distantes et rejetantes. Donc, ces mères réfrigérateurs seraient la cause de l'apparition de l'autisme chez ces jeunes enfants. Et puis, finalement, suite à ces théorisations, on a un petit peu fait la même chose pour ce qui concerne la schizophrénie. Alors là, je vous ai mis un listing non exhaustif, je pense, de ce qu'on pensait des mères à cette époque, hostiles, rejetantes, instables. J'en passe, hein, et des meilleurs. Les pères n'étaient pas en reste, puisque eux aussi pouvaient provoquer la schizophrénie en étant austères, autoritaires, sadiques, etc. Heureusement, on n'en est plus là. Et pour vous en donner la preuve, j'ai récupéré les verbatims des parents que je reçois en consultation, donc les parents de mes patients. J'ai noté un petit peu tout ce qu'ils me disent vis-à-vis de leurs jeunes. Il ne semble pas comprendre, il m'apparaît ailleurs, peu intéressé. Il a le regard figé, distant. Il dit parfois des choses étranges, il me parle peu, il a peu d'expression dans son visage. Il ne voit plus ses amis, il s'isole. Il a des problèmes à l'école, il est inquiet, méfiant, anxieux. Il est irritable, impulsif, il se néglige. Il vit la nuit, il dort le jour, il sourit sans raison, il regarde derrière lui, chuchote parfois seul pour lui-même. Il a un délai dans ses réponses, il semble souvent perplexe. Je ne le reconnais plus, il me fait peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, compte tenu de tous ces dires de parents, on est loin de personnes, de mères réfrigérateurs ou de pères qui n'écoutent pas. On est des parents qui sont complètement à l'écoute de leurs jeunes, à l'écoute de leurs enfants, et qui prennent la mesure des difficultés que celui-ci rencontre. Qui est-ce qui contacte en général les systèmes de soins, que ce soit le généraliste ou bien les structures un peu plus spécialisées comme les centres d'aide médico-psychologique? C'est rarement les patients eux-mêmes, c'est souvent les parents. Des parents qui seraient réfrigérateurs, ils s'en foutraient en quelque sorte, ils n'iraient pas contacter. et ses parents pour un petit peu, j'allais dire, leur redonner la place qu'ils ont et puis illustrer quand même le quotidien qu'ils peuvent connaître. Comme je vous disais, les idées sont anciennes mais tenaces. Ils gardent toujours cette image de mauvais parents, ils l'internalisent et puis les autres leur font remarquer encore souvent. Ils ont l'idée que, génétiquement parlant, c'est eux qui ont donné un mauvais gène. Tous les parents, sans exception, il n'y en a pas un qui me dit « j'aurais dû agir avant, j'aurais dû faire quelque chose ». Mais oui, déjà, je me disais qu'il n'allait pas bien auparavant. Si j'avais fait quelque chose, j'aurais pu l'aider auparavant. C'est terrible parce qu'il y a une remise en cause du système familial avec des hétéros, accusations des parents les uns envers les autres. Tu aurais dû le voir, t'aurais dû faire quelque chose, t'étais pas d'accord pour qu'on le fasse consulter. C'est terrifiant, mais on en arrive à avoir des situations de séparation, comme parfois on peut le connaître quand il y a un deuil d'un enfant dans des familles. Les parents se retrouvent accusés, et là ça tort, mais accusés quand même de la part de leur enfant d'être hospitalisés. Ils peuvent être également la cible des idées délirantes de la part de leurs enfants et être victimes donc du fait que les jeunes se sentent persécutés par leurs parents, mal compris par eux. Et malgré tout, ils gardent leur enfant à la maison. Comme je vous disais tout à l'heure, plus de 40% des personnes souffrant de schizophrénie habitent toujours chez leurs parents, malgré tout ça. Et puis, un des meilleurs signes que la maladie est encore stigmatisée est le fait que les familles cachent souvent les troubles à la famille. Combien de parents me disent « j'en ai parlé à ma sœur, mais les oncles et tantes, on n'en parle pas encore. Son frère est au courant, mais sa petite sœur, elle est trop en décalage avec tout ça pour comprendre ce qui se passe. C'est trop dur à avouer tout ça. » Aujourd'hui, les familles, au contraire de ce qui était fait avant, où on les stigmatisait en tant que telles, nous, on les considère réellement comme des partenaires de premier niveau. On travaille avec elles, on les reçoit en consultation, on leur donne des pistes pour essayer de vivre le mieux possible avec leur enfant. On essaye de les déculpabiliser, bien sûr. Et à cet égard, on a un programme qui est actif au Centre Esquirol, qui s'appelle ProFamille, et qui permet de donner des stratégies aux parents pour leur faire comprendre comment interagir au mieux avec leurs jeunes, comment essayer de diminuer le stress à la maison, comment essayer de diminuer les interactions avec lui qui soient un peu trop hautes en émotions, etc. Les émotions et le stress étant, je vous le rappelle, une des conditions nécessaires pour que se révèle la vulnérabilité donc, de la schizophrénie. Dernier point que je voulais aborder concernant les mythes associés à la schizophrénie, un des mythes qui persiste est que cette pathologie ne peut pas être traitée. Alors, encore une fois, il faut être clair, certes, elle peut-être qu'elle ne pourrait pas être traitée, on verra que non par la suite. Mais la schizophrénie, ce n'est pas une maladie monolithique, monobloc, et toutes les personnes souffrant de schizophrénie ne fonctionnent pas de la même façon. Les chiffres sont les suivants. Donc la schizophrénie, elle se caractérise par quoi ? Par une alternance de rémission, donc des périodes où tout va bien, donc alternance de rémission et de rechute. Parmi les patients, 20 à 25% présentent une rémission complète, c'est-à-dire qu'une fois leur épisode de schizophrénie passé, il n'y aura plus rien. 50% présentent une rémission partielle, c'est-à-dire des périodes où ça va moins bien et puis des périodes où ça va totalement bien. Et puis enfin, 25% des patients présentent une symptomatologie qui a du mal à diminuer malgré l'introduction d'un traitement pharmacologique ou bien toutes les aides qui peuvent être fournies à ces personnes. Un chiffre malgré tout est à retenir, c'est que dans les 5 ans après le premier épisode de schizophrénie, 80% des patients rechuteront. Donc il faut faire quelque chose face à ça. Quelles armes nous avons à notre disposition pour faire face ? les traitements médicamenteux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que ça serait très compliqué. Il y a des antipsychotiques donc, qui agissent sur les symptômes de la psychose en elle-même. Il y en a deux types, de première génération et de deuxième génération. Première génération, c'est des vieux antipsychotiques, et puis deuxième génération, c'est des antipsychotiques plus récents, avec des effets secondaires moins importants. Et puis, ils peuvent être pris soit par voie orale, ou bien être injectés sous forme de piqûre. Par voie orale, l'effet du traitement est relativement court, une journée au maximum, alors que par voie injectable, le traitement peut être actif pendant plus longtemps, 2 semaines, voire 1 mois. Excusez-moi 2 petites secondes. Donc des antipsychotiques pour gérer les symptômes de la psychose, mais aussi des anxiolytiques. Quand il y a du stress, il faut le diminuer, donc l'anxiété avec les anxiolytiques. Des antidépresseurs, plus de 60% des personnes souffrant de schizophrénie présentent des épisodes de dépression, donc il faut les aider à cet égard. Ce qu'on appelle des régulateurs de l'humeur, qui peuvent servir également à maintenir l'humeur à un bon niveau, un niveau normal, donc ne pas être trop déprimé, ou ne pas être trop euphorique, au contraire. Et puis la schizophrénie s'accompagne de troubles du sommeil pour un certain nombre de patients, donc on peut utiliser ce qu'on appelle des hypnotiques, des somnifères si vous préférez, sachant que le manque de sommeil est un facteur extrêmement préjudiciable puisqu'il augmente le stress et que si on a augmentation de stress, alors on a un risque de rechute. Et puis enfin, dans notre équipe de recherche, on a pu montrer également qu'une nouvelle technique qui s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne répétitive permettait de diminuer certains symptômes qui sont résistants au traitement antipsychotique. La stimulation magnétique transcrânienne, c'est tout bête, c'est utiliser une bobine magnétique, la poser en regard de certaines zones cérébrales, et puis le champ magnétique modifiera l'activité de ces zones cérébrales. Et donc, ce traitement se révèle extrêmement prometteur pour la diminution des hallucinations auditives persistantes, quelque chose de quand même cauchemardesque pour les patients et pour les symptômes négatifs. Alors, il y a des traitements médicamenteux, mais heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qu'on appelle la psychoéducation. Psychoéducation, dans tout ça, il y a l'explication dans ce terme. Donc, c'est informer le patient sur la maladie, sur les symptômes qui la composent, et puis sur les conséquences de cette maladie, de ses symptômes, sur son fonctionnement à l'extérieur. Du coup, on utilise le modèle vulnérabilité-stress dont je vous ai parlé, et que je vous rappelle, sauf que sur cette diapo-là, vous pouvez voir que c'est marqué vulnérabilité-stress-compétence. Notre objectif à nous, c'est d'essayer de supprimer cette grosse bulle rouge en dessous, et de faire en sorte que les personnes souffrant de schizophrénie développent des stratégies qui leur permettent de lutter contre les stresseurs environnementaux. La vulnérabilité, on peut essayer de lutter contre avec des médicaments, même si ce n'est pas encore aujourd'hui exceptionnel. Les stresseurs socio-environnementaux, on peut agir dessus. On peut amener la personne à diminuer le stress à son quotidien, dans son quotidien. On peut amener la personne à moins consommer de cannabis, puisque le cannabis est un facteur précipitant des rechutes. On peut amener la personne à développer du relationnel social, parce qu'on sait que si on reste isolé chez soi, on a des risques plus grands de développer des symptômes. Donc la psychoéducation fait qu'on explique ce modèle vulnérabilité-stress-compétence, mais elle explique également les symptômes et puis l'effet de la consommation de toxiques sur la pathologie. On utilise également les thérapies cognitives et comportementales, des thérapies qui visent à amener la personne à développer encore une fois des stratégies d'adaptation pour gérer son anxiété, pour gérer des symptômes comme les idées délirantes, les croyances qui sont erronées, les pensées un petit peu inadaptées. Gérer les hallucinations, donc apprendre comment réussir à stopper de soi-même les hallucinations sans avoir de médicaments pour cela. Donc développer des stratégies, nous, qu'on appelle de coping, qui est un terme anglo-saxon qui remplace le faire face chez nous, donc des stratégies de faire face. Mais le terme n'est pas joli, donc j'ai utilisé coping, qui n'est pas joli non plus d'ailleurs. On utilise également des thérapies de remédiation cognitive. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes souffrant de schizophrénie présentent pour la majorité d'entre elles des troubles cognitifs. Donc on essaye de pallier ces difficultés cognitives par du réentraînement, par compensations des fonctions cognitives déficitaires par d'autres fonctions qui, elles, sont préservées. Une réhabilitation psychosociale qui est extrêmement importante et donc qui amène à la personne à avoir des stratégies qui lui permettent de vivre de la manière la plus satisfaisante pour elle dans son environnement social, à vivre de manière autonome. On a à notre disposition également les hospitalisations de jour, les CATTP. Et pour ce qui est du centre Esquirol, chez nous, on a la chance d'avoir un excellent hôpital de jour, dont certains membres sont ici, et je les remercie, qui développe, tout ce que vous avez pu voir cité auparavant comme technique. Et puis enfin, pour la reprise du travail, il y a des établissements comme les ESAT dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permettent d'obtenir des emplois donc, qui sont adaptés aux difficultés présentées par les patients. Alors on a, donc, comme vous le pouvez le voir, un éventail de stratégies thérapeutiques qui sont complémentaires les unes des autres, non pas exclusives, complémentaires certes, mais il existe toujours des freins à la prise en charge. Un exemple illustrateur, 40 à 60% des personnes souffrant de schizophrénie sont partiellement ou complètement non compliantes au traitement médicamenteux. Pourquoi elles ne veulent pas prendre leur traitement ? Une des premières raisons, c'est que les traitements médicamenteux de la schizophrénie induisent des effets secondaires. Quand les patients ils sont interrogés sur ces effets secondaires, ceux qui citent comme les plus dérangeants pour eux, ce sont le syndrome extrapyramidal, qui se caractérise par une rigidité, une lenteur dans l'initiation des mouvements, et puis des tremblements au repos, une prise de poids pour certaines médications qui est extrêmement importante. Il n'est pas rare de voir des patients qui, en 2 mois de médication, prennent 20 kilos. La sédation, donc le fait de se sentir fatigué, tout mou, et puis des dysfonctions sexuelles. Quand on sait que la schizophrénie est une pathologie qui apparaît grosso modo dans la 25e année, le sexe c'est toujours important à 25 ans. Et donc si vous avez des médicaments qui empêchent cette fonction de se réaliser, c'est ennuyeux. On peut citer d'autres symptômes, effets secondaires qui pour moi me paraissent extrêmement délicats, la constipation, l'hypersalivation, des troubles de la vision, des myalgies, donc des douleurs musculaires, etc. À tel point qu'il y a certains auteurs dans les pays anglo-saxons qui ont parlé réellement d'une stigmatisation iatrogénique, c'est-à-dire induite par le traitement pour ces personnes qui souffrent de schizophrénie. Pour eux, ces chercheurs et ces cliniciens, les effets secondaires du traitement représentent un élément de stigmatisation supplémentaire, comme si ce n'était pas suffisant de souffrir de cette pathologie et de ses répercussions. Les traitements que ces patients prennent en plus les stigmatisent d'autant plus. Deuxième raison pour laquelle les patients ont des difficultés à prendre leur traitement, c'est le fait qu'ils ont ce qu'on appelle un défaut d'insight. Défaut, j'entends par défaut une difficulté, et non pas l'inverse d'une qualité. L'insight, qu'est-ce que c'est ? C'est la conscience que l'on souffre d'une pathologie, la conscience que cette pathologie induit des symptômes, et la conscience que cette pathologie et ses symptômes ont des conséquences, des répercussions délétères sur le fonctionnement dans la vie quotidienne. Donc, ces patients, ils présentent une diminution de la conscience des troubles. Une enquête réalisée par le département santé de l'Institut BVA en 2008 a interrogé 206 personnes souffrant de schizophrénie. Et ils leur ont posé la question, est-ce que vous vous sentez malade ? Ben, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que 40% des personnes souffrant de schizophrénie ne se sentent pas malades du tout, ce qui est beaucoup. 40% des personnes souffrant de schizophrénie ne se sentent pas malades. Alors, je me mets à la place des psychiatres pour leur dire, mais il faut prendre un traitement quand même, c'est compliqué. C'est compliqué d'autant plus qu'il faut reconnaître ce qui est. Hein, la schizophrénie, elle est associée à une image dans la société de mort, mort sociale. Quand on souffre de schizophrénie, le pronostic est vraiment de mauvais niveau. Et donc les médecins, ils sont réticents à poser ce diagnostic. Dans une étude donc de 1999, il s'avérait qu'il y avait 9 ans entre le début des troubles et le premier diagnostic posé. De la même façon, les études montrent qu'environ 22 à 39% des patients seulement sont informés de leur diagnostic de schizophrénie. Donc si vous n'avez pas de diagnostic pour vous, comment vous voulez faire pour avoir conscience de la nécessité de prendre un traitement ? C'est compliqué. Puis je vous rappelle également les textes de la loi Kouchner du 4 mars 2002 qui dit qu'il est aujourd'hui fortement incité de donner le diagnostic à une personne souffrante. Donc les choses devraient évoluer. Malgré tout, hein, il reste ce défaut d'insight, cette difficulté à reconnaître l'existence de troubles chez ces patients. Quand on les interroge, 28% disent qu'ils souffrent de schizophrénie, 37% ne connaissent pas leur maladie et 35% déclarent souffrir d'autre chose. Dépression, troubles psychologiques, troubles bipolaires, etc. Donc c'est très difficile de prendre un traitement quand on ne sait pas de quoi on souffre. D'autres freins existent à la prise en charge et au bon rétablissement de ces patients, le fait déjà que la maladie elle apparaît de manière insidieuse, c'est-à-dire petit à petit, par petites touches, sans qu'on s'en rende forcément compte, et ça je reviendrai dessus, ce qui peut parfois être confondu avec une crise d'adolescence. Des mécanismes de défense, tout simplement, c'est un véritable tsunami que d'apprendre que je souffre de schizophrénie ou que mon enfant souffre de schizophrénie, et je peux parfois faire barrage, ne pas accepter l'inacceptable. La stigmatisation médicamenteuse dont je parlais tout à l'heure, le fait que les effets secondaires représentent une véritable stigmatisation pour les patients, une stigmatisation médicamenteuse aussi qui vient de la diversité culturelle qu'on peut avoir dans notre société. Nombre de cultures refusent que les traitements soient pris. On parle souvent des personnes qui sont témoins de Jéhovah, mais il n'y a pas que ces personnes-là. Les personnes de confession musulmane, par exemple, pendant le ramadan, normalement, elles ne doivent pas prendre de médication, ce qui est un problème. En général, il n'y a aucun souci parce que les patients eux-mêmes et puis les responsables religieux sont tout à fait d'accord pour qu'on fasse un écart à tout ça. Donc il n'y a pas de souci, mais ça représente un frein quand même. Les stigmatisations culturelles, et notamment pour les minorités qui sont réticentes à les consulter de peur d'être exclues de leur communauté. J'ai en tête l'histoire d'un de mes patients qui est sénégalais, et chez lui, le terme de schizophrénie est apparenté à l'envoûtement. Donc on le considère comme envoûté. S'il est envoûté, il risque de répandre sur sa famille l'envoûtement qu'il a sur lui, et donc c'est inacceptable pour lui ce diagnostic. La responsabilité personnelle est un frein aussi pour les patients et leur entourage. Le principal préjudice social vient de l'idée que la maladie elle est sous le contrôle du patient lui-même, alors qu'on sait que c'est absolument pas le cas. Tout à l'heure je disais que le patient peut agir contre ses symptômes, certes, mais il ne peut pas tout faire. Une médication est nécessaire et indispensable. Ce qui nous amène à avoir des amalgames. Des amalgames aussi bien du public qui parle des schizophrènes et du patient lui-même qui dit « je suis schizophrène ». Quand vous souffrez de diabète, on dit rarement « vous êtes diabétique », on dit « vous souffrez de diabète ». Quand vous souffrez d'une maladie cardiovasculaire, on dit rarement « vous êtes cardiovasculaire ». Pourquoi on dit vous êtes schizophrène? Il est schizophrène. Parce que, à cause de cette stigmatisation, les personnes et la société en viennent à intérioriser le concept de schizophrénie. Et bon nombre de personnes souffrant de schizophrénie ne se résument que par ça, par les épisodes de la maladie, par les symptômes qu'ils présentent et par les dysfonctionnements que la maladie elle induit. Alors que si on met la maladie de côté, il y a un potentiel d'activité et d'action qui sont possibles encore. Heureusement, il y a des pistes d'avenir. Étant donné que le terme de schizophrénie est très connoté, il y a une étude scientifique intéressante qui est en cours de publication actuellement et qui a proposé de changer le nom de schizophrénie par un autre nom. Si c'est le nom de schizophrénie qui est stigmatisé, autant en changer, et puis comme ça changera les choses. Ils ont proposé un terme scientifique, syndrome de salience, qui est un anglicisme très, très moche, qui considère, donc, c'est une description symptomatique du trouble, qui consiste en le fait que chez les personnes de schizophrénie, donc, ils auraient tendance à mettre l'accent, à être plus attentifs que tout un chacun à certains détails dans l'environnement, à prendre en compte ces détails dans l'environnement de manière plus importante que les autres, et puis à construire des idées, notamment des idées délirantes vis-à-vis de ces détails de l'environnement. Donc ils ont proposé qu'on remplace ce terme de schizophrénie par celui de science dans la littérature scientifique, dans les médias, etc. Et donc ils ont proposé cette étude à 18 personnes souffrant de schizophrénie. Ils leur ont fait lire des vignettes cliniques, donc des petites histoires racontant la vie de personnes souffrant de schizophrénie, de leur sexe et de leur âge. C'est important pour qu'il y ait une capacité d'identification qui soit de bon niveau. Et donc, soit les personnes portaient le diagnostic de schizophrénie ou bien elles portaient le diagnostic de syndrome de Sayence. Et ils leur ont demandé ce qu'ils préféraient. Ben, finalement, 8 personnes sur 18 préfèrent le diagnostic de Sayence et 4 sur 18 préfèrent celui de schizophrénie. Pourquoi ? Ben, les patients disent que le terme de syndrome de Sayence est déstigmatisant. Donc c'est bien parce que c'est l'objectif. Pourquoi déstigmatisant ? Car c'est nouveau et obscur. C'est pas rattaché à des stéréotypes. Ça n'engendre pas de réaction émotionnelle chez autrui. Et puis ça permet de se cacher, de dissimuler. On dit aux autres, je souffre d'un syndrome de Sayence. Ils comprennent pas, donc je suis tranquille, ils m'embêtent pas. Par contre, pour les patients qui préféraient le terme de schizophrénie, eux, ils disaient, ben, la schizophrénie, pour moi, c'est un terme qui se rapproche beaucoup plus de l'expérience que j'ai vécue. Et en conclusion, un patient a dit, de toute façon, si on remplace le terme de schizophrénie, le problème sera le même. Vous avez compris. Une deuxième piste, je ne sais pas si elle est d'avenir, mais en tout cas, c'est un projet de recherche dans lequel on se lance dans notre équipe mobile de soins intensifs à Caen, de tenter de déstigmatiser par le biais de la communication, en partant du principe que la première expérience de symptômes chez le jeune, elle est terrifiante, et que le fait d'en parler à d'autres est stigmatisant. Personne n'a envie de se dire « je suis fou », puisque c'est un des préjugés qui est encore colporté sur la maladie psychique. Donc on s'est posé la question de comment diminuer le stigma lié aux troubles psychiques pour amener les jeunes à consulter. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'amener les jeunes à consulter quand ça ne va pas. Oui, il y a une stigmatisation qui empêche de le faire. Oui, c'est compliqué d'aller dire qu'on souffre de quelque chose. Mais plus on agit tôt, et mieux c'est. Donc, on a pour objectif... Il y a une mouche qui n'arrête pas de tourner autour de moi. Je suis désolé, elle m'énerve. Je vous la rends. Donc, l'objectif était de créer une campagne affichée. Une campagne de publicité, entre guillemets, si le terme est bien choisi. Sur le lieu des jeunes et qui sera construite par les jeunes. C'est-à-dire qu'on va demander aux personnes qui ont présenté un premier épisode psychotique récemment, que l'on a suivi dans notre équipe, de participer à un groupe de travail. Et donc, dans ce groupe de travail, on va leur demander de réfléchir à une campagne qui pourrait sensibiliser les gens de leur âge en fonction de leurs caractéristiques. Donc, le principal objectif est d'utiliser un vocabulaire qui permet de toucher nos cibles. Nos cibles, c'est les jeunes. Et j'ai tendance, peut-être un peu trop généralement, à me considérer encore comme jeune, mais je suis encore très en décalage par rapport au discours et les mots qui sont utilisés par les jeunes. Donc, on s'est dit que si c'était les jeunes qui faisaient ça, ils trouveraient les bons mots pour cibler les personnes de leur âge, premièrement, mais aussi qu'ils trouveraient les bons mots pour caractériser leur expérience à eux. Moi, je connais les troubles par les livres, par ce que m'en disent les personnes qui souffrent, mais je ne connais pas la sensation que ça a pu être pour eux. Donc si eux utilisent leurs termes, là peut-être qu'on collera un petit peu plus à la réalité et que le jeune, en voyant quelque chose d'affiché devant lui, se dira « ça, ça me correspond et je vais faire la démarche ». Le dernier but étant aussi de normaliser l'expérience. Aujourd'hui, c'est tabou de parler de schizophrénie, de troubles psychotiques dans la société. Dans les pays anglo-saxons, au Canada par exemple, y a des campagnes dans les bus, il y a des campagnes dans les lycées, il y a des campagnes dans des spots télévisés où on parle de schizophrénie, où on parle de ces troubles. Ça permet aux gens de comprendre, ça permet de casser les stéréotypes, les préjugés qu'on peut avoir sur la maladie. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Je sais que j'ai vu récemment qu'il y avait une campagne concernant les troubles de l'érection. Si on arrive à parler des troubles de l'érection, qui sont quand même des choses assez compliquées à avouer, pourquoi ne pas parler de schizophrénie ? Donc nous, l'objectif que l'on a aussi, c'est de normaliser cette expérience et en faire quelque chose dont on puisse parler. Une dernière information que je voulais donner, notamment aux jeunes qui sont en formation ici à l'IUFM et qui vont avoir devant eux peut-être un jour des enfants, des ados plutôt, qui présenteront des symptômes inquiétants. Donc comment détecter que quelque chose ne va pas ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la schizophrénie, c'est une pathologie qui est diagnostiquée après 6 mois de présence de symptômes, les symptômes que je vous présente. Que je vous présentais tout à l'heure, mais que ces symptômes, ils ont commencé bien avant le diagnostic de schizophrénie. On estime que c'est environ 5 ans avant. Les premiers signes, ça serait l'apparition d'une humeur dépressive, éventuellement de tentatives de suicide, une diminution de la confiance en soi, apparition de culpabilité, puis des troubles cognitifs, notamment des troubles attentionnels. J'arrive pas à me concentrer et j'ai du mal à mémoriser. Alors si on regarde ça, globalement, hein, c'est pas très très différent de la crise d'adolescence où un jeune se renferme chez lui, enfin dans sa chambre surtout, où il n'arrête pas d'être maussade, il gueule après ses parents, il n'a jamais envie de faire rien. C'est pas très spécifique, c'est difficile à reconnaître. Viennent ensuite des sentiments qui commencent à s'altérer, une diminution de la motivation, une diminution de l'énergie. Et puis enfin, entre 2 ans et 1 an, l'apparition de symptômes là plutôt positifs, comme j'ai défini ça tout à l'heure, avec des idées délirantes, des fausses croyances, des hallucinations, etc. Dans ce continuum aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est que je parlais de crise d'adolescence et du fait que les symptômes qui apparaissent au départ sont non spécifiques. Donc on a vraiment, véritablement, un problème de spécificité pour dire... même si on voit une personne 2 ans avant qu'elle fasse un épisode psychotique, de dire si elle fera un épisode psychotique ou bien si elle ira plutôt par la suite vers une schizophrénie. Difficulté de spécificité parce que les symptômes s'entrecroisent et se chevauchent largement au tout début de la période de souffrance. On a des symptômes qui se mélangent avec de psychose, qui se mélangent avec des symptômes de dépression et puis des symptômes de manie. Donc manie, c'est quand il y a une élévation du niveau de l'humeur, beaucoup d'euphorie, beaucoup d'énergie pour faire les choses. Et puis avec le temps qui passe, ces symptômes se disjoignent et donc pour arriver au premier épisode psychotique où là les choses sont un peu plus claires. On a une personne qui est plutôt dépressive ou on a une personne qui est plutôt maniaque ou une personne qui serait plutôt souffrant de symptômes psychotiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer chez un jeune que l'on pense en souffrance ? Ben, c'est les mêmes symptômes que je vous ai décrits tout à l'heure, sauf qu'ils sont en atténué, en plus faible. Les symptômes positifs avec des modifications de la pensée, ne plus penser de la même façon, des difficultés à se concentrer, à suivre une conversation, et puis des idées embrouillées ou décousues. Des modifications du langage, utilisation de mots inappropriés, voire même de néologismes, des mots qui n'existent pas, un discours trop détaillé, des jeunes qui vous font des palabres, des romans pour expliquer des choses relativement simples et qui prendraient peu de temps, un discours tangent, donc qui n'atteint pas sa cible. La personne, ce jeune veut vous parler d'un sujet en particulier, et puis il divague en quelque sorte. Finalement, il ne vous explique pas ce qu'il avait voulu vous expliquer. Des modifications des perceptions sensorielles, ce qui fait référence tout à l'heure aux hallucinations, mais en plus léger. Des changements visuels avec une altération des couleurs, de la clarté, de la taille, de la forme. Une ouïe plus fine, plus sensible, ou bien au contraire l'impression d'être enfermé dans un monde complètement sourd. Des changements olfactifs, donc sentir des choses différentes, des odeurs de poubelle, des odeurs de mort, des changements gustatifs, avoir un goût persistant sur le bout de la langue et ne pas réussir à s'en détacher, et puis des sensations tactiles bizarres, comme des ressentir des coups de jus, comme si on me grattait, on me piquait. Des symptômes négatifs aussi, le fait que le jeune s'isole, qu'il n'éprouve plus de plaisir à faire les choses, qu'il se désintéresse de ses amis, de ses études ou de son travail. La diminution de la motivation, de la volonté, de l'énergie, de l'envie de faire les choses. Et puis une diminution de la capacité à s'occuper de soi avec des jeunes qui prennent un peu moins leur douche que d'habitude, qui, pour les jeunes filles, pour les hommes, pourquoi pas, qui se maquillent moins, etc. Donc moins de soins corporels. Des symptômes cognitifs, des troubles de concentration, d'attention sélective, donc la capacité à sélectionner la bonne information dans une conversation, par exemple, des déficits de mémoire, difficulté à organiser ses actions, à raisonner, à faire plusieurs choses à la fois, et puis des difficultés à prêter à autrui des pensées, des intentions, des désirs, ne plus bien comprendre en fait ce que les autres veulent dire, les intentions qu'ils ont quand ils nous disent quelque chose. Des symptômes éventuellement thymiques avec une humeur qui saute. Alors ça aussi, hein, c'est pas spécifique hein, de l'épisode psychotique ou des signes alarmants. C'est ce qu'on retrouve chez tout ado. Le fait de se sentir anormalement surexcité ou bien au contraire déprimé ou anxieux, éprouver très peu d'émotions, sembler indifférent aux personnes de leur entourage. Des modifications du comportement enfin, donc éclater de rire au mauvais moment, se fâcher sans raison apparente. Présenter des perturbations du sommeil et de l'appétit, perdre le goût de vivre et se reclure dans des idées et des activités auto-centrées. Et là, j'insiste parce que c'est un phénomène aussi important, je pense, que le cannabis, les jeux vidéo en ligne. Beaucoup de jeunes consomment, surconsomment à tel point qu'aujourd'hui, on parle d'addiction aux jeux vidéo en ligne. Et quand je joue à ces jeux vidéo, certes, j'ai peut-être l'impression d'avoir du contact social parce que je chatte, parce que je suis avec les autres joueurs en ligne, sauf que rien ne remplacera le contact avec l'extérieur, rien ne remplacera les amis réels et non pas virtuels. Bref, tous ces signes peuvent alarmer, mais pris chacun pour eux, ils ne doivent pas non plus vous poser question. C'est un regroupement de signes d'alarme que vous devez mettre en évidence pour réussir à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne doit pas s'alarmer parce qu'un jeune s'isole. Non, c'est normal. C'est la crise d'adolescence ou autre chose, parce qu'il a besoin de s'isoler. Ce n'est pas parce qu'un jeune a des sautes d'humeur ou qu'il éclate de rire de manière un petit peu inadaptée qu'il faut s'alarmer non plus. Donc, faites bien attention, ces symptômes ou ces signes en eux-mêmes ne justifient pas de s'inquiéter outre mesure. Alors, ces jeunes qui sont en début de signes, de choses qui ne vont pas bien, donc nous, on a créé à Caen, au Centre Esquirol, une équipe qui permet de prendre en charge ces jeunes, et je vais vous en dire deux mots. C'est une équipe mobile, donc de soins intensifs, qui compte ce qu'on appelle 5 case manager. Donc des case managers, c'est des infirmières actuellement, puisque ce ne sont que des femmes, qui interviennent aussi bien dans notre centre d'aide médico-psychologique, mais aussi sur le lieu de vie du patient, qui vont donc à domicile, qui vont à la fac, qui vont dans des bars avec lui pour pouvoir faciliter le contact, ne pas sortir le jeune de son milieu de vie. Un psychologue, un cadre de santé et un psychiatre. Les interventions que l'on a, donc, c'est des interventions pour les jeunes âgés de 16 à 24 ans, comme je vous l'ai dit, uniquement actuellement sur le secteur Caen Nord, donc, qui géographiquement, si je ne m'abuse, représente un triangle qui va en gros du centre Esquirol, donc qui sera du CHU, pour aller jusqu'à Ouistreham et Courseul, et puis vous refaites le triangle, c'est ça ? Merci. On essaye de les prendre en charge extrêmement rapidement. Donc c'est des interventions qui sont rapides et intensives. Soit pendant qu'il y a une première hospitalisation, auquel cas le jeune est vu dans les 24 à 72 heures après son hospitalisation, lors d'une consultation, donc, on essaye de donner, pareil, dans les 72 heures, en gros, une première consultation à un jeune qui appelle pour avoir un rendez-vous, ou à des parents qui disent « il faut que vous voyez mon enfant ». C'est pas forcément le médecin, le psy ou une infirmière, c'est qui est disponible, qui voit le jeune à ce moment-là. On reçoit également les familles pour maintenir le lien, et puis éventuellement d'autres professionnels de santé si c'est le médecin généraliste qui nous réfère le jeune. On informe tout de suite le jeune qu'il va avoir sur le dos, mais c'est une bonne chose, une infirmière, un psychologue, une cadre de santé et une psychiatre, et ceci pendant une durée de 2 ans. Nos objectifs donc, ce sont de favoriser l'accessibilité aux soins pour les jeunes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les infirmières, elles interviennent à domicile ou au plus proche des jeunes. Là-dessus, elles ont un rôle extrêmement important à jouer parce que c'est elles le lien, la cohésion avec le jeune. C'est elles que le jeune voit le plus souvent. Donc, elles sont extrêmement importantes. Elles suivent le milieu du jeune, notre objectif étant d'éviter au maximum l'hospitalisation. Commencer sa vie d'ado ou de jeune adulte à 20 ans par une hospitalisation en psychiatrie, c'est pas chouette du tout. Donc on essaye au maximum de garder les gens dehors. Donc dépister et diagnostiquer précocement tous les troubles psychopathologiques et débutants. Obtenir des bénéfices donc en termes de diminution du risque de suicide, la DUP, je vous en parle pas, c'est un terme trop technique, maintenir le jeune dans son environnement, lui maintenir une insertion professionnelle, socio-professionnelle, réaliser un suivi rapproché avec objectif étant la prévention de la rupture de lien. Les infirmières voient pendant les six premiers mois, le jeune jusqu'à 2 fois par semaine, le psychologue 1 fois par semaine et le psychiatre 1 fois toutes les 2 semaines. Ça va en diminuant au fur et à mesure du temps parce que ça va mieux, mais il faut imaginer que c'est une prise en charge conséquente. Et puis un travail en partenariat donc avec les familles que l'on reçoit, soit la psychiatre ou soit moi-même, avec le jeune ou sans le jeune, travail avec le milieu scolaire, éducatif, social, et puis le système judiciaire si nécessaire. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui souffrent, vous pouvez contacter le centre d'aide médico-psychologique du centre Esquirol qui se trouve à Hérouville-Saint-Clair au numéro suivant. J'en arrive à la fin, j'espère que j'ai pas été trop long. Ma conclusion, si j'ai été trop long dans mon discours, ma conclusion elle sera courte, puisqu'elle reprendra exactement les termes de la présentation. Non, la schizophrénie n'est pas un dédoublement de la personnalité ou une personnalité multiple. Non, la schizophrénie n'est pas un défaut de caractère ou une faiblesse morale. Les maladies mentales et les personnes souffrant de schizophrénie, en général, ne sont pas tous violents et dangereux. Le risque, en tout cas, est largement exagéré dans les médias, et étant donné que les médias façonnent largement l'opinion publique. Donc le risque est exagéré également dans l'opinion publique. La schizophrénie n'est pas causée par des mauvaises compétences parentales. Bien sûr, on pourra toujours trouver peut-être des parents qui ont des difficultés et qu'on trouvera un jeune chez eux qui souffre de schizophrénie. Mais très clairement, aucune étude scientifique actuellement ne démontre qu'il y a un lien entre le fonctionnement parental et la schizophrénie. Et enfin, heureusement, les personnes souffrant de schizophrénie peuvent être traitées. Il existe de nombreuses stratégies pour ça. On est encore loin d'avoir tout découvert, mais on y travaille. Voilà, je vous remercie de votre attention bienveillante et je suis prêt à répondre à toutes vos questions maintenant. Juste avant que la première question se fasse, j'ai oublié de mettre des références. Si vous voulez aller sur Internet, n'allez pas sur Doctissimo. Allez sur des sites qui vous donneront des informations fiables. J'en ai cité deux ici, il y en a d'autres. Hein. Et puis, si vous voulez lire un très bon bouquin qui a une vision complètement humaniste de ce qu'est la schizophrénie, lisez celui-ci. Il est vraiment extrêmement bien.